Salut tout le monde, c'est Richard. Comment ça va par chez vous? On est vendredi, il est 18h, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été avant l'heure. Et surtout, bah ça y est, on se fait plaisir sur la terre battue qu'on aime. La balle gicle, les lignes fusent, le lift s'emballe et les services kickés montent au-dessus de l'épaule. Ce soir, on va revenir sur le tournoi de Monte Carlo avec la victoire de Yannick Sinner. Est-ce que ça sent bon pour l'Italien avant Roland Garros? On va en discuter parce que son grand rival, Carlos Alcaraz, il est même pas sûr pour l'instant de pouvoir jouer Roland Garros. Mais oui, il a le poignet qui grince. On va aussi revenir sur le tournoi de Barcelone, marqué par la victoire de notre Français Arthur Fils, toujours aussi impressionnant semaine après semaine, et qui récupère très logiquement la place de numéro 1 français. On vous fera également découvrir un jeune espoir espagnol de 19 ans seulement, le nouveau Rafa. Et puis chez les filles, on reviendra évidemment en long, en large et en travers sur le tournoi de Rouen, qui se tenait la semaine dernière. On était aux premières loges. Le programme est alléchant, comme toujours. Alors on se lance, pleine balle, c'est parti.
Silence, civil play. On a une période où on joue moins bien parce qu'on réalise. Et là, j'étais vraiment sur un nuage pendant trois jours.
That's good stuff. All out of 10. Est-ce que vous avez vu le temps qu'il fait depuis quelques jours là? C'est l'été, ciel bleu, grand soleil. Oui, mais les deux vrais rayons de soleil, ils sont avec moi aujourd'hui en studio. Celui qui fréquente aussi facilement les plateaux télé que les cours de tennis. Il a récemment repris le chemin de la compétition en double.
Ouais, mais tout à fait.
C'est Enzo, comment ça va?
Ça va et toi? Ça va et vous?
Ouais, ça va, ça va. Et puis celle qui joue quasiment seconde série maintenant, hein. C'est la membre la plus légitime de pleine balle. La seule qui s'est renvoyée 4 fois de suite une balle. Elle a soulevé un trophée au Palais des Sports de Caen-la-Mer. Et oui, messieurs, dames, Marine est là.
Coucou.
Ça va?
Ça va.
Oh là là, et Marine, déjà en tenue de tennis. Hein.
Ouais, je suis à fond.
On voit les pros et...
on le signale. Ouais, parce qu'elle a un match dans quelques minutes, few minutes.
J'ai quelques temps devant moi, mais pas beaucoup, attention.
Ouais, ouais, donc là, voilà, si les auditeurs veulent avoir une petite image, tu as mis le petit haut sportwear.
Parce qu'on sort Adidas. Hein,
voilà.
Pas de marque.
Ah, bah, attention, Nike, Reebok, Puma, ok.
Allez, voilà, comme ça, c'est bon, on est content avec
le petit débardeur. T'as même mis les chaussettes. Alors, c'est avant ton match, mais il y a déjà la terre battue sur les chaussettes.
Il y a déjà la terre battue, elle est incrustée depuis.
Incroyable.
Ah,
dites pas à laver au moins à 30 degrés, Marine.
Non, mais là, faut de la javel. Là. C'est mort.
De la javel.
Ah, ouais,
là, on est sur un petit vinaigre de pomme.
Exactement.
Attention, messieurs, dames. Ok. Ouais,
bon, de la machine à laver, toi.
Premier tour ce soir.
Deuxième
tour, à Crolly.
À Crolly, ouais.
Oh là là. Peut-être que ton adversaire est en train d'écouter cette émission.
Eh, peut-être.
Effectivement, peut-être.
Attention.
On verra.
Donc, premier tour, c'était quand le premier tour?
C'était hier soir.
Oh là là, et t'as gagné facile?
J'ai gagné facile.
En toute modestie,
on n'a pas besoin de dire le score.
Est-ce que ton adversaire a mis un jeu hier ou pas?
Elle en a mis deux.
Grand seigneur.
Vous avez demandé. Ouais.
Grand seigneur, grand prince.
Ouais, je suis courtois sur le coup, ça va.
Grand seigneur. Oh là là. En parlant de seigneur, quelqu'un a des nouvelles de Simon?
Ah non.
Ou pas?
Non. J'ai pas de...
Il vit, hein.
Vous avez des nouvelles? Non.
Je crois qu'il vit, mais...
Bah écoutez,
oui. En tout cas, on l'embrasse, Simon. Est-ce qu'il nous écoute? J'imagine que oui.
Oh, je pense qu'il devrait
faire son retour dans 15 jours. C'est quand il veut. Hein.
Quand il veut.
Évidemment. Bon, vous le savez, ça y est, la saison de sur terre battue est largement commencée maintenant. Nous sommes fin avril. Le circuit fait étape en Espagne, à Madrid en ce moment. Les meilleurs joueurs, les meilleures joueuses y sont. Mais avant le tournoi 1000 de Madrid, il y avait le Masters 1000 de Monte Carlo, la finale tant attendue entre Carlito Alcaraz et Yannick Sinner, qui a bien eu lieu. Alcaraz qui a mis fin à la belle et grande aventure du local Valentin Vacheron.
Oui.
En demi, tout a une fin, malheureusement pour Valentin. Sinner, lui, il a sorti Alexander Zverev en demi-finale.
Très surprise.
Et donc, les deux stars du circuit ATP ont donc croisé le fer pour remporter le trophée monégasque. Et donc, c'est Sinner qui s'est imposé 2-7. Il a dominé les débats, hein, victoire 7-6, 6-3. Voilà, son premier trophée à Monte Carlo, son premier Masters 1000 sur terre battue et seulement son deuxième tournoi sur terre battue après Umag, c'était en 2022. Un ATP 250 à Umag, donc il y a 4 ans, où il avait battu en finale... Qui s'en rappelle?
Oh,
ah là là, je sais même pas si vous connaissez ce joueur.
Ah ouais, à ce moment-là?
Ouais.
Non, aucune idée.
Commence par
Gojo.
A.
Ah non.
Commence par A.
Le nom de famille ou le prénom?
Le nom de famille.
Oh. Oh, Kevin Anderson.
Non.
Non, genre, alors là, Alcaraz.
Alcaraz.
Ah ouais, non,
joli,
je connais pas.
Enzo.
Non, je connais pas.
Il avait déjà battu Alcaraz en 2022.
C'est bon,
ça. Umag.
Excellent.
Bah ouais, pas mal. Hein. Ah, j'adore faire des petites blagues comme ça.
Ouais, ça marche.
Ça, c'est ta marque.
C'est ma signature. C'est ta signature.
C'est ma signature.
Alors, Sinner, est-ce qu'il passe un message avec cette grosse victoire là avant Roland Garros?
Probably, hein.
T'as l'air convaincu.
Maybe, probablement. Ouais, non, bah, oui, Sinner. Bah, en vrai, est-ce qu'il y a vraiment une surface où Sinner ne performe pas?
Bah, on l'attendait quand même un peu, cette première victoire référence, on va dire, sur Terre.
Surtout le premier combat, Alcaraz-Sinner, c'était quand même vachement important. Et même si Alcaraz n'était peut-être pas forcément au meilleur de sa forme pour cette finale-là, beaucoup diraient qu'il était en dessous de son tournoi global.
Peut-être qu'Enzo le dirait.
Je le dis.
Non, mais il y avait du vent aussi. Hein.
Ouais, en vrai, le match n'était pas fou. Hein. Soyons sincères. C'est clairement pas le meilleur affrontement entre les deux
non,
qu'on ait vu.
Non.
Évidemment, comparé à mon faible niveau de 4ème série, évidemment que le match est à des standards que je ne peux imaginer, mais c'était vraiment pas le meilleur match qu'on a vu entre les deux, et c'est vrai qu'Alcaraz était en dessous, je trouvais.
Un peu en dessous.
Après, ils vont pas nous faire une finale de Roland.
Ah, mais bien sûr.
Non,
bien sûr.
Pas à chaque fois quand même.
2025, comme à chaque fois.
Bah, c'est vrai quand on a vu ce genre de finale à Roland, on s'attend toujours à un combat de fou furieux.
Oui, mais
chaque,
c'est justement là le danger.
Eh oui.
C'est
ils
vrai,
sont humains, hein, ils ont des petites faiblesses.
Tout à fait.
Donc voilà, il va quand même falloir suivre maintenant Sinner sur les derniers tournois préparatifs pour Roland. Là, il y a Madrid, il y aura Rome chez lui en Italie dans quelques semaines. Mais bon, en tout cas, on sent qu'il est de plus en plus à l'aise sur cette surface.
Ouais.
Ah bah oui, après, comme tu l'as dit, elle allait bien finir par arriver un jour, cette grosse victoire sur
Terre. Je l'ai dit, ça
Je suis sûr que tu l'as dit.
Même si
tu l'as
pas
dit, j'ai dû le dire.
Dit que tu l'as dit, c'est bon.
De toute façon, c'est tellement juste dans tes analyses que tu l'as forcément dit. Mais on s'en doutait que ça allait finir par arriver un jour, qu'il allait prendre un gros trophée comme ça sur Terre. Maintenant, voilà, ça y est, on l'a, ce trophée. À voir ce que ça donne, lui, comme tu l'as dit, pour Madrid et Rome. Rome, c'est surtout quand même le gros révélateur avant Roland. Madrid, c'est un peu spécial, on va y revenir. Mais...
Bah, il y aura aussi Aix-en-Provence, mais je crois qu'il n'est pas inscrit.
Et n'oublions pas le Challenger Primrose à Bordeaux.
Oui, aussi. C'est vrai. Mickaël Diodra.
Allez, on prend
temps, bras, ça. Évidemment. Non, mais c'est sûr que, bon, si Alcaraz avait été là tout de suite maintenant à 100%, on pourrait dire que oui, même psychologiquement, c'est une victoire qui lui ferait du bien, etc. Bon, là, on ne sait même pas, on va en parler un peu plus tard dans l'émission, mais on ne sait même pas si Alcaraz sera présent en porte d'Auteuil cette année. Bon, en tout cas, derrière Alcaraz, bon, même sur terre battue, c'est quand même Sinner qui...
Ah oui. Puis il n'y a pas de concurrence derrière, de toute façon.
Bah non, Zverev, non. Voilà. Même si, en vrai, il pourrait, mais Djoko se ferait de plus en plus rare sur le circuit. Donc, on en revient vite. Voilà, un cavalier seul de Sinner quand Alcaraz n'est pas là, quoi.
Ouais, Djoko, il a dit qu'il serait à Roland-Garros.
Ah, mais moi, je ne doute pas que Novak sera à Roland.
Il va faire que les 4 grands chelems, je pense.
En vrai.
À mon avis, ça va partir
peut-être
comme
Rome,
ça.
Peut-être Rome, histoire 2.
Histoire de se préparer un petit peu, taper la balle sur terre, allez.
Ou il n'y a pas un tournoi à Belgrade là où il y a son cousin qui doit être
un truc comme ça. Ouais.
C'est pas le tournoi qui se déroule en Grèce, ça maintenant?
Ouais, c'est en Grèce maintenant. Ouais. Et du coup, c'est Tsitsipas, ils ont transféré
tout. Qui est en Grèce.
Le problème, c'est Tsitsipas ne vient même plus au tournoi.
Oh là là. That's
good stuff. All out of tech from Federer. Et après Monte-Carlo, il y avait le tournoi de Barcelone.
Et oui,
un ATP 500 cette fois, où figuraient Carlos Alcaraz, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti ou encore Karen Khachanov. Sauf que Khachanov, il s'est fait sortir au premier tour, de Minaur au deuxième, Musetti n'a pas dépassé l'écart, et surtout Alcaraz, et donc il a déclaré forfait en début de tournoi. Bah, c'est quand même ça la grosse info là, de ce début de saison sur terre battue. Blessure au poignet, a priori... Une tendinite. A priori, je n'entrerai pas dans les détails techniques. Simon n'est pas là, il aurait pu nous en parler un peu plus en détail. Malheureusement. Donc, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais déjà, le mot tendinite, même si on n'est pas expert, on sait que c'est difficile de savoir à l'avance combien de temps ça va nous enquiquiner.
Oui, très clairement.
Donc là, apparemment, c'est ça. Roland qui approche quand même à grands pas. C'est dans
un mois.
Un mois.
Ouais.
Voilà.
Un mois aujourd'hui, même si c'est le 24 mai.
Comment on vit ça là? Comment est-ce que vous viviez ça, vous, cette absence pour l'instant de Carlito, son fantôme qui plane au-dessus des cours de Roland?
J'en pleure tous les soirs.
Bah, ça pue, hein, en vrai. En vrai, ça pue. Hein.
Là, ça pue. Parce que pour qui, justement, en conférence, qui déclare qu'il n'est pas sûr d'être à Roland, faut quand même. C'est que ça doit être vachement sérieux et ça fait un peu peur,
puis,
quoi.
puis comme tu le dis, tendinite, c'est voilà, ça peut repartir un peu entre guillemets, enfin ça peut se calmer. Il va reprendre la raquette une semaine, paf, ça va être deux fois pire, enfin c'est vraiment un truc. Ça peut même aboutir à une opération. En vrai,
soyons si honnêtes. Si le tendon est trop.
Puis là, on n'est pas sur une tendinite du sourcil là, on est sur une tendinite du poignet. Et quand on joue au tennis, quand tu joues au tennis, c'est bah rigole c'est pas, c'est vrai, c'est embêtant quoi.
Tu sais ce que c'est la tendinite du sourcil?
J'en ai eu une quand j'avais 8 ans.
Ah oui.
Et ça a été très
compliqué. C'est pour ça que t'as des lunettes.
C'est pour ça que, c'est pour ça que j'ai un œil qui se ferme tout seul. Je fais des clins d'œil. Et donc non mais en plus on rappelle revers à demain quand même hein, Carlito.
Oui bah oui.
Voilà
oui.
Donc la tendinite au poignet. Soyez sérieux deux secondes. Non mais ça veut aussi dire quand même, même s'il revient dans 3 semaines, c'est que sa préparation est quand même
tronquée.
Sacrément
ouais,
tronquée.
Ouais c'est clair.
Clairement. Ouais. Donc bah oui ça pue. Moi franchement je suis vraiment pas du tout optimiste pour la fin de.
Ah
fin
oui tu penses.
T'es pas du tout optimiste.
Il sera pas Roland.
Ah ouais.
Pardon.
Breaking news, vraiment,
je vois pas un monde où il sera Roland.
C'est vrai qu'il a quand même dit que s'il était pas à fond pour Roland, ça servait à rien pour lui de venir.
Ouais,
pour
non, le coup, vraiment, je pense pas qu'il sera Roland. Ouais. Et je le vois même pas venir en mode bon, on teste et on verra. Je pense vraiment
non. C'est pas du
on le saura avant qu'il, voilà, qu'il déclarera forfait ou pas. Pour moi,
il pourrait faire le trophée des légendes ou de la main gauche.
Avec Mansour Marami.
Par exemple, voilà. Ah, mais t'es vraiment.
Non, je le sens pas. Je le sens pas.
Moi, j'ai un petit espoir quand même. Mais dans mon espoir, c'est effectivement ne pas toucher la raquette pendant plusieurs semaines et à ce moment-là arriver à Roland
sans rythme,
quasiment sans rythme, à la gueule mon fils, voilà, tu sais pas trop où t'en es, tout ça.
Ah mais ça c'est
pas facile.
Ça c'est une victoire en 5-7 au premier tour, ça.
La gueule en nocturne,
en night.
Bon, écoutez, on verra bien pour notre ami Carlito, mais. C'est vrai que pour le plaisir du jeu, on a envie de le voir, Alcaraz à Roland.
Ah bah ouais, oui. Mais le voir pas à 100%, franchement, se faire tes jeux deuxième tour par un inconnu, en vrai, c'est pas
forcément. On a envie de le voir, on a envie qu'il soit prêt.
Voilà, ouais, c'est ça, on a envie de le voir à 100%.
Bon, en tout cas, pour revenir à Barcelone, celui qui s'en est frotté les mains de cette absence de Carlito, c'est Andriy Rublev, hein, qui était dans sa partie de tableau.
Et oui.
Ah bah oui.
Et oui, bon, et le Russe qui a enchaîné des victoires.
Mais ouais, étonnamment.
Assez dingue. Et donc, il a atteint la finale, Rublev. C'était sa première de l'année. Et de l'autre côté du tableau, celui qui a tiré son épingle du jeu, celui qu'on attendait, qu'on espérait, parce qu'il nous fait un début de saison quand même assez dingue, c'est Arthur Fils.
Et oui.
Arthur, tuteur, qui a dû sauver des balles de match. Au premier tour, contre le bien-aimé Terence Atman. Et ensuite, Nakashima, Musetti en quart, Rodar, et puis donc cette finale contre Rublev. Une finale maîtrisée quasiment à la perfection.
Quasiment, voilà, tu fais bien de le dire.
Un petit trou d'air au moment de conclure. finalement, il gagne 6-2, 7-6, avec un niveau de jeu quand même assez énorme. Je ne sais pas si vous avez regardé ce match.
On suivait de loin à Rouen, parce que c'était en même temps que la finale.
Vous avez des yeux partout. Hein.
On avait un écran.
On avait
pas de tendine du sourcil.
Ah, bah non, là, le sourcil, il va bien.
Tac, tac, tac. Nickel.
Là, il est vif le sourcil.
Incroyable. Moi j'ai regardé le match de fond en comble et j'ai été vraiment bluffé. Bah, je suis un peu bluffé par le niveau d'Arthur Fils globalement depuis le début de saison, depuis son retour là. Mais là j'ai trouvé que contre Rublev, dans ce type de jeu où ça cogne, bah, Rublev s'est fait avoir. Et surtout voilà, je trouve Arthur d'une solidité quand même en coup droit, on le savait. Revers, moi je suis vraiment bluffé côté revers. Je trouve ça fou, quoi. Il est solide, il enchaîne les points gagnants. Enfin, là, il a un revers qui est quasiment aussi fort que son coup droit maintenant. Je trouve ça incroyable. Et puis voilà, dans la tête, mentalement, il ressemble pas du tout à un Français. C'est,
c'est
bluffant.
Ouais, bah c'est bluffant. C'est ce que tu disais, son deuxième set, il était mené 5-2, je crois. Ou...
Il menait
5-2, il s'est fait remonter 5-5. Il a loupé 3 balles de match dans un 5-4.
Ouais, il rate des balles de match, il s'effondre
mais
un peu.
Mais c'est lui qui les rate, ouais, c'est ça.
Après, bon, Arthur Fils, ça fait quand même un an quasiment qu'il a pas joué à ce niveau-là, qu'il a pas servi pour un tournoi. Et effectivement, il s'est fait un peu rattraper sur la fin, mais finalement, au tie-break, bon, il a su resserrer le jeu.
C'est ce que j'allais dire. Mentalement, c'est carrément confortant de voir ça.
Bah, carrément. Je suis vraiment bluffé. Vraiment bluffé par le niveau d'Arthur Fils.
Ouais, bah, comme tu le dis, oui, c'est vraiment la confirmation là, de ce qu'on voyait déjà depuis son retour, là, depuis le début de l'année à peu près. Et clairement, c'est un joueur. Aujourd'hui, il est quoi? Il est 25e là. C'est un joueur qui. Sans, entre guillemets, n'a rien à faire à cette place-là.
Non,
c'est un
ça,
joueur
monté,
qui est top 15, soyons honnêtes, avec un fond de jeu de top 15. Et qui est...
Bah, s'il continue comme ça,
si le physique tient, il n'y a pas de souci.
Là, il n'y a pas de souci. Alors, il est quand même 6e à la race.
Il est 6e à la race.
Ouais, 6e à la race.
On va voir à Turin.
Ça serait pas mal, une fin d'année turinoise pour notre ami Arthur. Est-ce que c'est pas un peu quand même l'effet Goran?
L'effet Goran.
L'effet Goran.
Peut-être,
pourquoi pas.
L'effet Gore.
C'est vrai. Oui, oui. Non, mais on en parle pas trop. Mais bon, voilà, Ivan Isevich, c'est quand même le mec qui a connu le haut niveau, évidemment, qui a quand même porté Djoko vers, vers pas mal de titres aussi. On sait pas trop ce qu'il lui apporte. Voilà, on n'est pas à sa place, mais il y a quand même peut-être pas mal d'éléments quand même qui sont comme ça reliés, mis bout à bout, révélateurs d'un, d'un très bon début de saison. Voilà, mais c'est vrai d'avoir un entraîneur de la trempe, je dirais quand même, d'Ivan Isevich, avec un joueur qui sort quand même du lot côté français, Arthur Fils.
Ouais.
C'est une association qui paye.
Ouais, pour c'est ça. Oui, et puis, ça peut, on peut imaginer que c'est un duo qui peut fonctionner aussi, dans le sens où Goran a un tempérament aussi. Et Arthur Fils est un joueur quand même assez, je sais pas comment le dire, mais fluctuant. Genre, il a des très très hauts, des très très gros points forts. Et parfois, on en a tendance aussi, des fois, à relever un peu ces montagnes russes là. C'est vrai que Goran peut peut-être aussi arriver à le trouver le discours pour essayer de canaliser un peu ça. Et bah pour l'instant, on a l'impression que ça paye.
Ouais, et pour l'instant, on voit surtout les hauts. Hein.
Et bon, voilà.
Ouais, pour l'instant. Hein. Pourvu que ça dure comme ça.
Oui, c'est ça.
Cette semaine, nouveau tournoi, toujours en Espagne. Et on remonte en Masters 1000. Bah oui, tout s'enchaîne là. Hein. Cette fois, c'est à Madrid. Alors, sans Alcaraz, ça on l'a bien compris. Pas de Djoko non plus. Hein, Djoko le Croco. Oui. Il n'est pas là, on l'a dit. Il a lui-même dit hein, qu'il serait normalement présent à Roland-Garros. Mais à Madrid, on retrouve quand même Sinner, Zverev est là, Arthur Fils est là également. Le tournoi, il a commencé là en milieu de semaine, il y a deux jours. Pour l'instant, pas de grande surprise. Gaël Monfils a joué et perdu son premier tour face à l'Argentin Hugo Carabelli. Gaël qui disait au moment de commencer ce tournoi vouloir, je cite, dire au revoir et se faire kiffer. Il a dit au revoir.
Mais il s'est pas
fait kiffer.
En tout cas, nous, on n'a pas kiffé. Et lui, je pense pas non plus. Ce match bien pourrave de Gaël. Hein.
Pas
t'as pas regardé?
Non.
T'as pas raté grand-chose, honnêtement. Bon. Match perdu 6-3, 6-4 par la Monf. Un match sans relief. Beaucoup de fautes directes de la part de mon fils. Ouais. Vraiment pas dans le rythme, pas dans le truc, pas dans le coup. Est-ce qu'il était très motivé? Je sais pas. Le mec en face, il fait son match. Hein, Hugo Carabelli. Bon voilà, dernière saison de Gaël, bon, ne fait pas vraiment rêver pour l'instant. Tu sens qu'il est là pour enfin oui, il cherche à s'éclater, il a le sourire, il est content, il a tenté un ou deux coups spectacle, mais c'est dommage parce que c'est un mec, tu sens que s'il joue sérieusement, il a quand même encore un niveau plus que potable.
Oh bah oui.
Bon, est-ce qu'il était très motivé là à Madrid, je sais pas.
Avoir un Roland.
Mais ouais, voir avant, je sais pas s'il va faire Rome peut-être avant Roland.
Ah oui, certainement.
Il va faire le premier tour de Rome.
Prime Rose.
Est-ce qu'il sera Prime Rose?
On ne sait pas. Non, non, mais voilà, moi, je suis un petit peu déçu parce qu'il est là pour faire le show, mais j'aurais bien aimé quand même qu'il passe un tour ou deux. Mais d'un autre côté, tu sens qu'il est à court de rythme, tu sens qu'il n'a plus l'habitude de faire des matchs. Tu sens
ah bah,
que,
ça se voit.
Ouais, c'est ça.
Voilà, et j'arrête pas de faire la comparaison avec Wawrinka. voilà, mais ça saute aux yeux, quoi. Il y a un mec qui a envie de tout donner sur sa fin de saison, sur sa fin de carrière. Et l'autre, voilà, il est là pour s'amuser sur des premiers tours.
Bah oui, c'est ça ce que j'allais dire. Ils ont pas le même objectif en tête, donc logiquement, les performances sont pas les mêmes. Est-ce que c'est dommage de voir un Monfils qui est juste là pour venir s'amuser sur le terrain? Oui, on est bien d'accord. Mais bon, peut-être qu'il est conscient aussi qu'il fera plus rien, donc... S'il est heureux.
Oui, voilà. c'est son bonheur avant tout, mais...
Voilà.
Bon, ouais. Moi, je suis un petit peu frustré quand même.
Je comprends.
Un petit peu frustré.
On va espérer qu'un Roland, il fasse le vrai show.
Oui, oui, non, mais le pourquoi truc pas, en fait, c'est qu'il faudrait qu'il fasse quelques matchs avant. Alors, oui, il s'entraîne, il le dit, qu'il veut se refaire une caisse physique, là, il a encore un mois pour le faire, etc. Mmh. Mais ça remplacera pas les matchs.
Non, c'est sûr, il faut passer le premier tour.
Ça, c'est sûr. Alors, à Madrid, il y a des Français.
Mais oui.
Il y a des Français en dehors de Gaël Monfils, qui a donc perdu hier. Je les prends comme ça, hein, à la volée, voilà. Bonzi et Droguet se sont joués au premier tour. C'est Benjamin Bonzi qui s'en est sorti et qui aura l'honneur d'affronter Yannick Sinner au prochain match. Ça va être sympa. Un match serré contre Droguet. Alors Droguet, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un mec qui est en train de frapper à la porte du top 100.
Ouais. Doucement mais sûrement, il se rapproche, hein, typiquement du de 120, truc comme ça.
Ouais, je crois qu'il est vraiment pas loin.
Ouais, il est vraiment pas loin. Hein. Il est pas dans le cut de Roland Garros parce que le cut est à 104.
Ouais.
Mais il est pas très 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 loin.
Là, il est sorti des qualifs du coup à Madrid.
S'il fait 2-3 bonnes paires, je crois que c'est à Bordeaux lui pour le coup, il est inscrit. À vérifier. Mais au jeu des forfaits à Roland, il peut peut-être récupérer une place dans le tableau.
Bah
c'est pas impossible.
Bah ça serait une bonne nouvelle pour Titouan. Ouais. Voilà. Arthur Rinderknecht, désormais numéro 2 français, qui va lui jouer contre Lajovic pour commencer son tournoi. Voilà, bon, c'est un match à sa portée. Mais
il a gagné contre Lajovic.
Ça y est, c'est fait.
Ça y est, c'est
oh,
fait.
C'est
ah,
fait.
6-3-6-2, facile.
Bah voilà,
6-3-6-2,
une promenade
bah, voilà.
de santé.
Facile. Voilà. Facile, donc facile. Rendez-vous au tour suivant, peut-être contre Rublev.
Peut-être.
C'est fort possible. Arthur Fils, bah, lui, va jouer son premier match contre la Buse, qui nous vient du Pérou.
La Buse péruvienne.
La Buse péruvienne. Ignacio Bouzé, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit son nom, qui a sorti Manarino sans grande surprise au premier tour, 6-4-6-2. Alexandre Müller, petite déception pour Alex.
Pour
7-6-6-0 au premier tour contre le légendaire vétéran allemand Struff. Voilà, déception un petit peu quand même. C'est vrai que moi j'aime bien Alexandre Müller.
Oui,
et on sent qu'il est un peu dans le dur.
C'est un peu, ouais, c'est un peu compliqué là, pour lui depuis quelques mois.
J'ai pas checké, mais je pense qu'il est en train de redescendre au classement.
Je vais aller regarder.
À mon avis,
je pense que oui, il a dû perdre
c'est
quelques
ça.
Places.
Toujours à Madrid, Corentin Moutet, voilà, tête de série 26, qui lui commence son tournoi face à un Espagnol, Daniel Merida, voilà. Ouais. Et puis il nous en reste quelques-uns. Hugo Humbert va jouer son premier match contre un autre Français, Terence Atman. Ben voilà, ça c'est un petit duel franco-français. Donc on aura au moins un Français au troisième
c'est
tour
vrai.
Pour accompagner Arthur Rinderknecht.
Ouais. Et ça, je reprends sur Müller, je regarde, il est 95e là.
Aïe, 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 aïe.
C'est dur.
Ouais, ça c'est pas terrible.
Pas terrible.
C'est pas terrible.
Courage.
À noter la victoire de Tsitsipas.
Eh oui,
oh, oui. Eh oui,
oh là là.
Au bout du suspense.
Ouais, au bout de l'effort.
Oh là contre là. L'Américain Kipson, 90e mondial et lucky loser, 7-6 au troisième set. Tsitsipas, j'ai vu qu'il s'était pris un avertissement pour coaching.
Ouais, pour coaching,
Apostolos, toujours les bons
coups.
C'est
Popo qui a dit trop de choses.
Magnifique ça. Bon voilà, donc 90e Kipson, en même temps Tsitsipas qui est vraiment juste au-dessus, hein,
oui.
Il est 80e. Donc c'était un beau duel.
Oh là là.
Mais il avait l'air soulagé, Stéphanos, hein, de remporter un match en Masters 1000.
Deux tie-break pour gagner.
Ouais,
wow.
ouais.
Ça part peut-être de là.
Peut-être.
Oui.
Tu encourages Stéphanos ?
Non, calme-toi.
Ah, excuse-moi.
De toute façon, prochain tour, là, ça s'annonce un petit peu plus corsé.
J'ai bien dit, ça part peut-être de là.
Ça part...
Prochain match contre ?
Public.
Ça va être intéressant.
Joli match.
Ça va être intéressant.
Public 6-3-6-2. Allez.
Allez, on note. On est
allez,
dans
on revient dans 15 jours.
Ouais,
Émile, hein, d'ailleurs, qu'on a pas salué. Salut Émile.
Salut Émile.
Salut Émile.
Salut, salut.
Tu clips ça, hein, 6-3-6-2, prono de Marine. On le ressort dans 15 jours, évidemment.
Ouais. Alors, il y en a un qu'on va surveiller à Madrid. Sur ses terres en Espagne, c'est Rafael Rodard.
Mais oui,
Rafael Rodard. Nadal. Oh là là.
Non. J'y ai
cru.
C'était un petit peu le jeu, mais c'est pas lui. Demi-finaliste à Barcelone la semaine dernière. Vainqueur au Grand Prix à San 2, il y a un mois. Et oui, c'est lui. Alors, qui est ce petit jeune de 19 ans? Réponse avec Enzo.
3, 4. Foot.
Et oui, l'histoire du jour, c'est celle d'un joueur espagnol, hein, pas encore 20 ans, qui a raflé son premier titre en carrière sur terre battue. Il porte Madrid dans son cœur et il se prénomme Rafael. Bonne année 2004, hein. Eh ben non, c'est pas un fantôme de Nadal, bien que notre larron a lui aussi un nom de famille en 5 lettres. À l'heure où je vous parle, l'Espagne du tennis se prend à rêver d'un destin doré pour une autre jeune pousse, Rafael Rodard, tu l'as dit, Richard, à 19 ans.
Tu le fais mieux que moi.
Ouais, ouais. Le roulement de R est travaillé.
T'as vu ça? Il
ouais.
est travaillé.
Je m'incline.
À 19 ans, c'est lui, hein, l'ibérique le plus hype de ce tournoi de Madrid, absence de Carlitos oblige. Et même si ce n'est que son troisième Masters 1000 en carrière, les espoirs sont déjà grands pour celui qui, il y a un an encore, était totalement desconocido, un parfait inconnu. Quoi.
T'as fait LV3 espagnol.
LV1 espagnol,
oh
monsieur.
Ah oui, d'accord, il y a un niveau. Et oui, il y a un niveau.
Attention, alors là, je m'incline à 100%. Bon, alors justement, pour ce petit espagnol, que de chemin parcouru là, ces derniers mois.
Ah ben, c'est clair, pour vous donner une idée de la progression XXL de ce cher Rafael, j'ai retrouvé le classement au pif d'il y a exactement un an. Un classement où Tsitsipas était encore 18e.
Oh là là.
Et Nishikori 64e.
Ah là là.
Comme quoi, de l'eau a coulé sous les ponts. Et dans ce classement, bah, il faut scroller quelques temps pour retrouver la trace de Rodar. 680 87e mondial, bien intercalé entre le célébrissime allemand Louis Vessels et...
Est-ce qu'il a un lave-vaisselle, ça?
Je la voyais venir, évidemment.
Oui.
Et la star américaine Daniel Milevski, bien sûr.
Ah, le grand Daniel Milevski. Le compositeur, là, qui a fait venir... qui a fait venir Angèle Ogio.
Le non, même. C'est pas lui. Ouais, exactement le même, lui-même. C'est sa personne. À cette époque, Rodar commençait à peine à écumer le circuit Challenger, mais pas de manière régulière, puisque Raphaël était encore un universitaire. À ce moment-là, et oui, lui aussi est passé par la case université aux États-Unis, bien sûr, preuve s'il en fallait encore une, que le circuit universitaire du pays de l'oncle Sam, c'est actuellement the place to be pour les diamants bruts du tennis international. C'est en Virginie que Rodar signe fin 2024, une université à laquelle il restera lié jusqu'au dernier jour de l'année 2025, date à laquelle il choisit de se consacrer à 100% à sa carrière professionnelle. Une décision qui se justifie par des premiers mois plus que prolifiques sur le grand circuit. En août dernier, il remporte contre le français Dan Haddad son premier titre en challenger à Hersonissos, charmante municipalité du nord-est de la Crète. Deux autres titres pour lui en fin d'année aux États-Unis qui l'ont amené jusqu'au Masters Next Gen fin 2025. Certes, il n'a pas vu la phase finale du tournoi, mais il a quand même battu en poule Lorner Tien et Martin Landalucci.
Ah, quand même.
Quand même. Ouais. C'est pas mal. Et ses premiers mois de 2026 sont ébouriffants. Finale en Challenger à Canberra, sortie des qualifs à l'Open d'Australie et à Miami. Et bien sûr, ce titre qui fait déjà de lui une des plus grandes légendes de l'histoire du tennis, aux côtés d'Hicham Arazi ou Pablo Andujar. Le Grand Prix Hassan II, bien sûr, hein, Richard, ah, oui. Tu nous en as parlé il y a 15 jours, tu nous en as reparlé il y a quelques secondes. Un succès triomphal pour lui face à un adversaire qui aurait presque pu être son père.
C'est peut-être son père.
C'est d'ailleurs. Peut-être son père d'ailleurs. Ils ont la même coupe de cheveux. le vétéran argentin Marco Trungeliti, submergé par l'insouciance de Rodar. Petite stat, il est devenu le 6e espagnol de l'Air Open à soulever un trophée avant ses 20 ans sur le grand circuit.
Mmh. C'est beau.
Il rejoint d'ailleurs Nadal, Alcaraz, Moya, Ferrero et Tommy Robredo.
Oh, joli.
Tommy Robredo. Un joli petit club quand même. Ajoutez à cela une demi-finale en ATP 500 à Barcelone. Et voilà, vous avez le mode d'emploi pour gagner plus de 600 places en un an au classement.
Mais non, ça rend un petit peu jaloux. Une progression XXL qui s'explique par un profil très complet et déjà très mature.
Tout à fait, mon Richie, la version 2026 de Rafa, c'est un profil assez particulier. Alors déjà, considération totalement personnelle, mais je trouve qu'il a quelque chose d'Andy Roddick dans son visage.
Physiquement ?
Ouais, je trouve qu'il a, il a des traits d'Andy Roddick. Voilà.
Il n'a pas le service en tout cas.
Il n'y a pas le service. mais bon, bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Tennistiquement parlant, on peut le rapprocher d'un Yannick Sinner, déjà parce qu'il joue avec la même raquette. Et oui, à l'église. En termes de gabarit aussi, Rodar, c'est un joueur longiligne qui dépasse le 1m90 sans pour autant paraître aussi musculeux que pouvait l'être en son temps Nadal ou aujourd'hui Alcaraz dans une moindre mesure. Il a déjà de nombreux codes pour réussir dans le circuit de 2026, de bons déplacements pour un joueur de son gabarit, une frappe lourde des deux côtés, même si son coup droit peut parfois encore être un peu friable. Sa taille, c'est évidemment un argument de poids pour son service, mais là où il est peut-être le plus bluffant, c'est cette sérénité qui le caractérise. On pourrait même parler de détachement vis-à-vis des innombrables louanges qu'il reçoit ces derniers mois. Quand Alcaraz parle de vous comme, je cite, un garçon exceptionnel sur le court comme en dehors, quand Alex Correia, quand même un grand nom du tennis espagnol, qualifie votre revers de merveille et vous envoie avec certitude dans le top 20 ou 25, il y a quand même de quoi crouler sous la pression. Mais pas Rodar, qui garde la tête sur les épaules. Dans la foulée de son titre à Marrakech, il déclarait « Que je gagne ou que je perde, je ne changerai pas, j'essaierai de garder la même humilité. »
Oh, il est beau.
Il parle aussi bien français que ça ?
Ah oui,
oh là
mais c'était lui,
là,
je l'ai pas reconnu.
Incroyable.
Cette valeur notamment inculquée par son entraîneur, son papa, qui s'appelle Rafael Rodar Senior.
Oui.
Ça ne s'invente pas.
Faut pas chercher très loin.
Voilà, faut pas aller chercher très loin. Dans un tennis espagnol soucieux de se maintenir au sommet, qui pense déjà à l'après Alcaraz, les promesses sont là, peut-être moins nombreuses qu'en Italie, mais avec Rodar et son copain Martin Landalucci, l'Espagne tient là deux joyaux, prêts à prendre la lumière. Et en ce qui concerne donc Rafael Rodar, il n'est plus sous les radars, et qui sait, peut-être que nous assistons là à l'émergence d'une future star.
Peut-être.
Oh là là là.
T'as pas mal à la gorge là, à force de rouler les...
Rodar.
Non,
non, non. Attends, tu vois bien.
Tu dois bien faire le pigeon, toi. Ah,
il
oh,
y a un oiseau dans la salle.
Je suis un pigeon.
C'est quasiment lui.
Émile, évidemment, bêtisier.
Alors, chez les femmes, la semaine dernière, les meilleures joueuses étaient à Stuttgart et c'est la tête de série numéro 1 qui s'est imposée, Rybakina. La numéro 2 mondiale, elle a battu en finale Mourova. Le plateau était relevé avec Coco Gauff, Mira Andreeva, Elina Svitolina et une petite polonaise aussi, Iga Swiatek, qui a gagné plusieurs matchs
wow
à Stuttgart.
OMG.
C'est un petit événement,
j'entends,
ça, quand même.
Mais non, mais j'entends même pas les critiques, en fait.
C'est pas une critique, je dis qu'elle a gagné plusieurs matchs.
Oui,
c'est
factuel.
Si, Gesuete, évidemment, qu'elle gagne plusieurs matchs.
C'est factuel.
Écoute.
Ça se relève.
Mais arrêtez
Non, mais j'attends que tu me donnes quelques détails sur, sur ce joli parcours des Gaziantep.
Que quoi, qu'elle a perdu contre Andrieva et que j'ai trop la haine. Bah,
voilà
les détails.
Non, mais elle a un petit trou d'air, ça arrive. Moi, je suis contente, elle a fait un bon départ à Madrid. Elle a pas mis la petite bubule, mais elle était pas loin de la bubule.
À Stuttgart, elle a quand même battu.
Si, elle a mis une bubule.
Laura Sigmund.
Voilà.
Je sais, ça m'a fait mal.
Donc franchement, c'est quand même pas rien.
Donc bon, est-ce qu'elle est pas un petit peu sur le retour? En même temps, elle a fait un stage
avec Rafa,
à la Manacor
justement.
Academy là. Oui. Attention là.
Peut-être. Moi, j'espère pour elle.
Et sur le chemin du retour.
Je l'attends à Madrid. Je l'attends à Roland. Je l'attends partout. En fait.
J'attends partout. En tout cas, Rybakina sur terre battue, ça a l'air solide aussi. Ça,
étonnamment,
hein.
Oui.
Ouais.
C'est...
Alors. Astérisque quand même, Stuttgart c'est en indoor quand même, précisons.
Oui, c'est vrai que
ça change. Mais quand même, oui, saluons quand même la grosse performance de Rybakina sur terre battue. À voir si ça se concrétise sur terre outdoor, sur extérieur quand même. Mais oui, elle commence aussi à être très très forte sur terre battue.
Ah non, mais si elle commence à gagner tous les tournois en fait.
Bah oui,
ça va être lourd quoi.
Ça va être un peu lourd.
Ouais, bah sachant qu'en plus l'année dernière elle a fait une saison un peu nulle. Donc là, en fait, elle juste. Non, mais objectivement, sa saison était vraiment pas ouf, donc elle a pas emmagasiné beaucoup de points. Et là, elle est en train de grimper. Mais
c'est ça, c'est que là, il y a pas
puissance. Donc bon,
elle est bouillante en ce moment.
Oui,
Madame Rybakina.
Tout à fait.
À suivre. Est-ce que ça en fera une vainqueur à Roland Garros?
Est-ce qu'on la verra exploser de joie? Non,
c'est impossible.
Pourquoi faire?
C'est vrai que ça freine un peu quand même. Je trouve l'affection qu'on peut avoir pour elle.
Ah ouais.
Elle n'exprimera rien.
Ah, sinon, tu l'aimerais plus que Swiatek?
Alors, non. On n'abuse pas non plus.
D'accord.
Mais c'est vrai que j'aurais peut-être un peu moins de mal à l'apprécier.
Ouais.
Parce que là, voilà, elle gagne un tournoi, on dirait qu'elle est passée le premier tour. Franchement, c'est...
Elle s'y attend, en fait. C'est des choses normales pour elle. Voilà. Enzo, c'est pareil quand
chevilles.
Il gagne un match en double.
Bah oui, voilà, c'est voilà. Boulot, quoi.
Aucun signe ostentatoire, quoi.
Bah
ouais. Ouais, mais je sais pas, une petite diffusion de joie, je sais pas, non.
Bon, on lui passera le mot.
Ouais.
Si jamais on arrive à l'interviewer un jour, ça serait pas mal. Alors, Stuttgart, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, il y avait aussi le tournoi de Rouen. On va évidemment en parler dans notre page Normandie. Et puis ces jours-ci, eh bien, il y a le tournoi de Madrid. Alors, tout se passe à Madrid cette semaine. Hein.
Ah oui, là, oui.
Avec une première surprise quand même, c'est la défaite de Svitolina.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Svitolina qui a perdu sur le même score que Gaël Monfils.
Ah, c'est un signe.
6-3, 6-4.
Hey.
Pas mal quand même. Ils font tout ensemble. Quoi.
Voilà.
C'est une belle preuve d'amour. c'est un peu fou ça. Hein.
Il fallait qu'ils rentrent chez eux, je pense. Hein.
Peut-être une urgence.
Il y avait une échéance.
Sky était. Elle fait ses dents en ce moment. voilà, fallait vite rentrer. Et une histoire comme ça, je pense. Hein. Chez les favorites, entrée en lice sans encombre pour Sabalenka. Ça passe aussi pour Iga Swiatek, voilà, contre la Hongroise Bondar. 6-3, 6-4. Voilà. Mais ce qu'on attendait tous, c'est pas 6-3, 6-4 ?
Non, c'est.
C'est surtout pas Bondar.
C'est
pas Bondar,
c'est
Snigour.
Snigour.
Ah, Bondar, c'est celle qui a battu Svitolina.
Exactement,
peut-être.
Voilà.
Oui,
voilà,
t'es
on y
dessus,
est. Voilà. Swiatek, elle a battu qui ?
Snigour. Une meuf qui sort des qualifs. Une ukrainienne, je crois.
Bah bravo.
Une meuf qui sort des qualifs.
Tout adversaire Marine. De Swiatek est mon adversaire.
Le manque de respect, quoi.
Oh là là.
Ok. Et donc, oui, celle qu'on attendait tous, eh bien, c'est le retour. C'est Loïse Boisson, évidemment.
Ah bah.
Éloignée des cours depuis plus de 6 mois, elle qui adore la terre battue, on le sait. Eh bien, elle était opposée à l'américaine Stearns, 48e mondiale. Bon, bah.
Aïe,
il y a encore du boulot pour Loïs.
C'est pas un cadeau aussi, hein. Stearns, ça envoie
non,
du lourd.
Non,
quand même.
C'est pas un cadeau, mais
ah oui, bah.
On espérait, je pense, un petit peu plus de la part de Loïs. Défaite sèche, 6-1, 6-3, et au-delà du score, mais surtout le niveau de jeu hein, qui m'a
oui,
un
voilà.
petit peu.
Elle était pas
un
là.
Un petit peu inquiétée.
Elle était clairement pas prête, quoi.
Elle était pas là, ça partait pas de la raquette. En coup droit, c'est pas de longueur. Beaucoup de bois. Le revers, c'était pas trop ça non plus. Ouais, un peu. Bon. Alors après, tant que physiquement tout va bien, j'ai pas eu de retour après.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu trop de galères physiques ou quoi que ce soit.
Ouais, apparemment ça va.
Ça, pour l'instant, ça, voilà, ça va. On espère que ça va continuer comme ça. Après, oui, bah, le chantier est encore immense pour essayer de retrouver un niveau qui pourrait lui, voilà, lui permettre de défendre sa demi à Roland, quand même. Hein. On rappelle l'échéance, une toute petite échéance qui arrive là d'ici un mois pour elle. Mais après, oui, bah, on s'y attendait, hein, malheureusement, après une telle absence, dans des conditions de jeu, je le répète, qui sont particulière. Madrid, ça reste quand même un tournoi assez particulier en altitude, etc. Mais oui, bah après, c'est peut-être l'ampleur de la défaite qui est plus inquiétante. On s'y attendait peut-être pas sur, sur un score aussi sec.
Le score est un peu sec.
Mais bon, après, bah, malheureusement.
Bon, alors prochaine échéance pour Loïs Boisson. J'ai pas regardé son calendrier. Bon, on va la revoir, j'imagine, avant Roland Garros. Il y a un intérêt, j'espère.
Avant Rome, il n'y a pas d'autre tournoi de toute façon.
Préparer. Bah, Rome, ça va venir assez vite.
Ça va revenir assez vite.
Ouais, non, je pense qu'il va y avoir Rome.
Strasbourg, peut-être.
Peut-être un petit tournoi avant Roland. Mais bon.
Ouais, il ne va pas y avoir 45 000 tournois.
On espère. Puis on rappelle aussi qu'elle a changé d'entraîneur.
Et oui,
c'est vrai.
Ça, faut suivre aussi un petit peu cette.
Oui.
Cette histoire qui n'est pas évidente à suivre.
Non.
Vu qu'elle n'a quasiment pas joué, elle s'est très peu entraînée, mais elle a quand même réussi à changer d'entraîneur.
L'ancien coach Janisimova, je crois.
Je sais pas.
Oui,
c'est ça, c'est un néerlandais.
Tout à fait.
Bon, le nom m'échappe.
Donc, on espère que. Non, c'est pas m'échappe.
Ah, c'est pas ça.
C'est pas ça. Ah. C'est un autre.
Ah oui.
Défaite également d'Elsa Jacquemot au premier tour contre l'italienne Grant. Léolia Jean-Jean, elle a franchi ce premier tour en battant la russe Selak Meteva. Et donc, il nous reste une française.
Léolia.
Voilà, Léolia Jean-Jean, qu'on va encourager de toutes nos forces. C'est vrai que maintenant, entre Loïs, qui n'est pas encore complètement revenue, entre Gracheva, qui est blessée.
Gracheva, c'est fini.
Entre Alizé Cornet, qui n'a toujours pas annoncé son nouveau retour. bon, c'est un peu vide, hein, quand même. Hein.
Bah ouais, c'est dommage.
C'est un peu vide. Bon, écoutez, on va quand même suivre Léolia Jean-Jean, évidemment.
On va pas la suivre longtemps parce qu'elle joue au Coco Gauff.
Oh, bah, c'est pas.
Voilà, c'est passif-agressif. Bam!
Bon, quoi,
t'es dur.
Je suis un peu réaliste.
Ouais, écoute.
Oui, bon, on a compris que tu voulais que Viatek gagne le tournoi, peu importe ce qui se passe. Mais bon, à un moment donné, faut arrêter. De...
Dis donc, t'es pas vraiment française, toi, en fait.
Moi, je suis polonaise de souche.
C'est ça. Pure souche. Les pronos, on va pronostiquer Madrid chez les hommes, chez les femmes. Allez, chose promise, chose due, nos pronos, toujours tant attendus. Ah, c'est vrai qu'on est toujours quand même dans les bonnes directions, faut le dire, faut l'admettre, évidemment. Honneur aux dames.
Oui.
On va partir sur les pronos de Madrid, du coup. Alors, honneur aux dames. Allez, Marine, tiens.
Bon, est-ce que vous allez vraiment être surpris par ce que je vais dire?
Anna Bondar. Non.
Une petite surprise.
Une petite surprise.
Mais Iga. Après, c'est mon choix du cœur, Iga, c'est parce que j'ai envie qu'elle revienne, j'ai envie que de la revoir, quoi, de revoir le rouleau compresseur. Non, mais elle me met dans tous mes états aussi. Non, mais ouais, je rêve de revoir une gigantesque en finale et en qu'elle soulève le trophée, quoi. Mais bon, je me fais pas trop d'illusions non plus. Je sais que ça risque d'être compliqué. Ouais, je suis pas non plus aveugle. Ça risque d'être compliqué, surtout qu'elle est dans la partie de tableau de Sabalenka. Donc, ça veut dire qu'on serait sur une potentielle demi avec Sabalenka, ce qui risque d'être compliqué. Donc, le choix du cœur, Świątek, bien évidemment. Sinon, je pense quand même partir sur une Sabalenka. Sabalenka. Je pense Paris-Bakina.
Ouais.
Je dirais Sabalenka.
Ok, Sabalenka pour Marine. Et donc, pas Świątek. C'est une petite
surprise. Non, mais si. Świątek, mais je suis pas folle, Sabalenka.
Bon, ok, vous n'avez pas réussi à suivre. Oui. Ne cherchez pas. Ok. moi, je mettrai une petite pièce sur Rybakina. Voilà, Rybakina qui, cette fois, on n'est pas en indoor, c'est vrai. Mais quoique, le toit peut se fermer à Madrid.
Tout est possible. Des aléas météorologiques.
Tu tombes sur une petite fin de semaine pluvieuse. Et là, je pense que Rybakina, c'est un boulevard.
Avec une petite bise. Madrilène.
Un petit crachin madrilène.
Ouais.
Voilà, pour moi, c'est fait.
Donc Rybakina.
Pas beaucoup de risques, hein, si je peux me permettre.
Bah si, c'est pas la joueuse de terre battue. Excuse-moi, il y a Sabalenka, il y a Coco Gauff, il y en a d'autres. Hein.
Ouais, coucou.
Rybakina.
Qu'est-ce que je vais dire, moi? est-ce qu'il faut que je trouve un troisième pronostic différent?
Par exemple.
Ah bah ouais,
parce
oui.
que sinon on copie. Eh bien allez, je vais prendre le relais du syndicat des joueurs polonais. Allez, Zviatek veut prendre le tournoi.
Oh là, oui là 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 là, ça c'est une annonce.
Allez.
Ça c'est une annonce.
Ça y est, elle va faire son retour, on y croit.
Avec mon combien rêve. De bulles?
Alors attends, je regarde. 3 bulles sur le chemin.
3 bulles sur son
allez,
chemin.
Top.
Ouais.
Ok, et pas voilà. dans le même match alors.
Non. Effectivement.
Ça pourrait.
0-6, 6-0.
La cote, elle est à 124. Avec clic là en ce moment. Ok, les pronos féminins, c'est fait. Passons aux hommes. Alors, qui va remporter ce tournoi de Madrid? Chez les messieurs, on l'a dit, Alcaraz n'est pas là. Donc, grand favori, Yannick Sinner. Est-ce que quelqu'un va lui couper le sifflet à notre ami Yannick ou
bonne
pas?
Bonne question.
Hmm ouais, pas sûr. Hein.
Non.
Je pense pas.
Tu restes sur.
Toi, tu dis Sinner?
Je pense Sinner, mais non, si Sinner en vrai.
Tête de série 1, toi tu restes.
Ça me paraît compliqué que ce soit quelqu'un d'autre.
C'est vrai que je pas des plus évidents.
Parce
Enzo
que, ouais, Arthur Fils aurait pu, mais non, même lui, il sait qu'il n'est pas encore au niveau de Sinner Alcaraz, donc. Non, Sinner.
Ok. Ouais. Sinner, quelque chose à rajouter, Marine?
Sinner. Iga. Non, je...
oh, ok, très bien. Donc, Sinner,
pas
dans le
tableau, monsieur.
Oh merde.
Allez, bah, tu sais quoi, moi j'ai une grosse cote.
Oh là 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 là.
Côté Sinner en plus de ça. Ben Shelton. Ben Shelton, ouais.
Vainqueur à Madrid.
Ouais, je vous l'annonce. Ben Shelton. Ben Shelton va être vainqueur à Madrid. J'ai des arguments plus de ça. Ouais.
Vas-y.
Non, mais en vrai, Madrid, c'est quand même, on l'a dit dans l'émission, c'est un tournoi particulier qui favorise un peu des joueurs qui sont pas forcément à la ramasse sur terre battue, mais qui sont aussi allés sur dur. Roublev a gagné ce tournoi.
C'est vrai que ça va vite.
Ça va vite. Roublev a déjà gagné ce tournoi. Casper Ruud a déjà gagné ce tournoi. Casper Ruud est aussi très bon sur dur. J'ai envie de croire à une petite surprise. Voilà, j'ai envie de croire. Enfin, une grosse surprise quand même. Ben Shelton, qui va s'extirper de ce côté de tableau. Puis j'aime beaucoup Benny. Donc,
Tu veux dire que c'est un tournoi qui pourrait également sourire à Marin Cilic?
Peut-être, effectivement.
Pourquoi pas?
Attention. Marin Cilic.
Tout est possible.
Ouais, voilà. Ben Shelton, dans sa partie de tableau, qui va battre Zverev au final. Voilà, je ne crois pas à une surprise de l'autre côté, mais.
C'est une grosse cote.
Voilà.
Donc Shelton est limite Sinner.
Ouais.
Oh,
j'ai envie d'y croire. Allez,
ça prend du risque. Hein.
Et ben moi, je vais mettre une grosse cote aussi.
Allez, vas-y.
Mais une cote un petit peu plus. Française. Arthur Fils.
Allez.
Ouais. Arthur Fils pour moi. Je sais pas ce que ça peut donner, mais bon, c'est vraiment le joueur en forme en ce moment.
C'est bien. Hein.
Tu vas donc annoncer qu'il va battre la buse péruvienne.
Oui, je pense que la buse péruvienne ne va pas faire long feu.
D'accord.
À mon avis. Hein.
Attention.
Ça va être une boucherie.
Oh ouais, à ce point-là?
Oh, j'espère pour Arthur.
Ah d'accord.
Bon, il est bien, il est en forme, il est en confiance.
Et je tiens à préciser en plus que son côté de tableau est dégagé puisque Valentin Vacherot a perdu.
Ah bon?
Eh
ah
oui,
bon
Valentin Vacherot a perdu contre Emilio Nava.
Ah bah non, ça y est, il est plus à Monaco, il est perdu.
C'est honteux.
Pauvre Valouf.
Donc là, il y a un boulevard pour Arthur Fils.
Bah, boulevard, ça y est, la victoire se dessine. Et ben voilà, merci à vous deux, on fait les comptes dans 15 jours. Hein.
Ah bah on fait les comptes.
Ah bah bien sûr.
Attention. Et la page Normandie, eh bien, elle est essentiellement dédiée au tournoi de Rouen, ça se tenait la semaine dernière.
Tout à fait, mon Richie, c'était la 3e édition du tournoi hein, depuis son passage dans la catégorie WTA 250. Rappelons que bah voilà, c'est une date qui fait partie des premières en Europe sur terre battue quand même pour le circuit WTA, donc une date importante. Cette année par contre, le tableau n'a pas été épargné par les forfaits hein, et autres désistements de dernière minute. On en parlait déjà il y a 15 jours avec toi, Marine. Déjà avant le tournoi, on avait eu Boisson et Gracheva qui ont dû laisser leur place dans le tournoi. Et dans les premiers jours de la compétition, on a eu Badosa qui a fait faux bond à l'organisation pour aller tenter de trouver une place de parking à Stuttgart. On te rappelle, Stuttgart pas intérieur. Voilà. Un choix payant pour l'Espagnol, éliminé au premier tour. Autre défection, celle d'une ancienne finaliste de Roland-Garros, quand même, et vainqueur de Grand Chelem, accessoirement, Markéta Vondrousova, la Tchèque. Ouais. Mise en cause quelques jours plus tard pour un contrôle antidopage qu'elle aurait refusé, ce pourquoi elle encourt jusqu'à 4 ans de suspension, une affaire dont on parlera peut-être un jour, mais bref, pas de Vondrousova à Rouen, en tout cas. Et ces rebondissements, bah, ils nous ont offert un tableau plutôt ouvert, avec notamment la demi-finale de Tatiana Maria. C'est pour toi, mon Ichi.
Ah bah oui, j'adore Tatiana.
L'Allemande de 38 ans, fidèle à son choc de revers, à son choc de coup droit aussi, d'ailleurs.
Une volleyeuse efficace.
Ah mais oui, très efficace. Mmh. Et au terme de cette semaine rouennaise, c'est donc une affiche 100% ukrainienne qu'on a retrouvée en finale. D'un côté, à la tête de série 1 du tournoi, Marta Kostiuk, 27e au classement PIF WTA au début du tournoi. Et face à elle, la belle histoire de cette édition 2026, Veronika Podrez, 19 ans, 209e au début du tournoi à Rouen. sorti des qualifs avant de connaître la plus belle semaine de sa jeune carrière. Et ce qui est singulier, c'est le parcours de Podrez qui, vous allez l'entendre, s'exprime dans un français absolument impeccable, car elle vit en France depuis l'âge de 5 ans. Et cette année, elle est en parallèle étudiante en droit à l'université Panthéon-Sorbonne. Voilà,
ça me fait... Ah oui, elle est Sorbonne, ça va. C'est...
Oui,
tranquille.
Mais quand même, étudiante en droit, la vie est belle pour Podrez et... encore plus après son tournoi. Et depuis 4 ans, donc, Podrez, elle est licenciée au tennis club de Meudon, dans les Hauts-de-Seine, et elle a tenu la dragée haute à son illustre compatriote, qui a quand même dû s'employer pour s'imposer 6-3, 6-4. Et malgré les presque 180 places qui la séparaient de son adversaire au coup d'envoi, elle n'a pas ressenti un écart si important que cela.
Par moment, un petit peu, mais après, globalement, non. Je pense que dans les frappes sur la puissance, en tout cas, coup droit, revers, je pense que je suis assez bien. Après, je pense qu'il y a quand même le service qui a manqué un peu moins d'assurance sur le service, des deuxièmes qui étaient assez faibles, où il y avait pas mal de doubles fautes, ce qui m'a mis quand même pas mal en difficulté, car j'ai quand même réussi à breaker aussi pas mal, Donc il y a encore beaucoup de travail sur ça, et puis au niveau des déplacements aussi, elle sortait quand même beaucoup de balles difficiles, mais après, globalement, je vois que c'est possible, donc il faut juste continuer à travailler.
Du travail donc encore pour Veronica Podrez, mais le sentiment qui prédominait après le match, c'était certainement la fierté d'avoir été actrice d'un moment d'histoire, une première finale 100% ukrainienne sur le circuit WTA, une sensation forte avec laquelle il a fallu composer.
Bah, j'essaie peut-être d'y penser quand même, voilà, pour vraiment rester concentrée sur le match. Mais après, oui, bah, ça fait toujours plaisir de voir des joueuses ukrainiennes, surtout dans une période qui n'est pas facile. J'ai aussi de la famille qui est en Ukraine, et puis j'ai eu beaucoup de soutien de leur part durant ce tournoi, mais aussi durant toute ma carrière là. Oui, ça fait vraiment plaisir. On a un peu créé l'histoire, on va dire, donc c'est vraiment cool, oui.
Et donc dans cette finale 100% ukrainienne, c'est Marta Kostyuk qui l'a emportée. Tête de série 1 du tournoi, elle a tenu son rang malgré deux matchs accrochés en 8e et en quart de finale. Et après sa victoire, elle était satisfaite d'avoir réussi à s'imposer malgré les pièges que comportait le tableau et notamment son adversaire en finale.
Je pense que chaque match était différent. Je peux pas dire qu'il y a eu un match vraiment plus facile qu'un autre. Toutes les filles jouaient vraiment bien, donc je suis très contente de la manière dont j'ai joué sur la semaine. Veronica est une joueuse maligne. J'ai pas pu m'entraîner ou jouer contre elle. Elle a super bien joué ici toute la semaine. Je suis contente de la façon dont j'ai géré la finale, même si je pense pas avoir très bien joué. Je me suis bien adaptée.
Traduction au poil.
J'ai l'impression d'avoir Nelson Montfort. C'est tellement parfait, la compétence.
T'as vu ça ?
Ah, merci, merci. Arrêtez, je vais rougir.
Et donc, cette finale, c'était aussi l'occasion de mettre aux prises deux joueuses qui ne s'étaient jamais affrontées. Et il faut bien le dire, Kostyuk ne connaissait pas très bien sa jeune compatriote.
Non, j'ai suivi ses résultats, bien sûr. Elle a pas mal fait parler d'elle récemment. J'ai vu qu'elle jouait vraiment très bien ces derniers mois. Elle a gagné plusieurs titres. Je l'ai vu un peu jouer ici. Je savais que ça allait pas être facile. Mais je savais pas trop à quoi m'attendre, donc contente d'avoir gagné.
Quelle traduction, franchement.
Ouais, bravo. Ouais.
Franchement, moi,
t'as trouvé ton futur métier. Hein. Je savais que tu cherchais, mais là, tu l'as trouvé. Hein.
Je suis épaté, donc personnellement.
Merci, merci.
En plus, Nelson Montfort n'est plus sur France Télé, donc voilà,
il y a une place à prendre. Ah, ok, oui. Bon, je vais aller m'enseigner alors.
On est d'accord.
En plus, tu adores le patin à glace.
Ma passion.
Un chemin tout tracé. Bref, cette victoire, elle permet à Kostyuk de gagner 5 places au classement pour atteindre la 23e place au classement WTA. Et une progression spectaculaire quand même pour Podrez, vous l'imaginez bien. Plus 62 places. La voilà désormais 147e joueuse mondiale. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette belle finale Kostyuk-Podrez en simple. Un mot du tournoi de double. Et également, on pense à toi Simon, c'est une paire tchèque qui s'est imposée, le très riche vivier tchèque a une nouvelle fois parlé, Myriam Skoch et Jessica Maleshkova, respectivement 46 et 47e joueuses mondiales se sont imposées, un duo français quand même a signalé en demi-finale Elsa Jacquemot et Sarah Rakotomanga, les deux tricolores sont passés tout proches de la finale avec cette balle de match là en demi. La double faute, Elsa, la double faute. Mais non, surtout les joueuses, elles ont pu compter sur le soutien d'Alizé Cornet, leur coach en Billie Jean King Cup, on en parlait tout à l'heure.
Ah oui.
Alizé Cornet était présente mercredi à Rouen et on a pu interroger Elsa Jacquemot sur ce que lui apporte la niçoise en tant que capitaine et ancienne 11e joueuse mondiale.
Du coup, Alizé, non, c'est cool parce que c'est la capitaine Fed Cup. On est rentrés avec elle, on est rentrés toutes les trois dimanche. Donc c'est vrai que ça enchaîne quand même beaucoup parce qu'on a quand même enchaîné le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi pour partir dimanche. C'est vrai que ça fait quand même pas mal de fatigue. Si je reviens à ta question, Alizé, ce qu'elle nous apporte, elle nous apporte beaucoup parce qu'on a de la chance, c'est une ancienne joueuse qui a très bien joué au niveau. Donc forcément, elle est assez cool, elle est très fun. Donc on se sent, enfin, je me sens assez sereine de lui parler de mes émotions, de comment je me sens. Donc, et elle fait de nous aussi une équipe. On essaye de plus se soutenir parce que c'est vrai qu'on était parti un peu plus dans l'individualité. Et on se rend compte que la Fed Cup, bah, ça nous rassemble aussi parce que ça fait vraiment une équipe. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, nous qui sommes toujours les semaines en indiv avec notre coach. Donc, non, elle nous apporte beaucoup sur cet esprit d'équipe, sur nous individuellement, sur notre tennis, sur notre mental. Donc non, Alizé, c'est vraiment cool de l'avoir.
Un apport précieux hein, d'Alizé Cornet pour la relève française.
Par contre, on va mettre un petit peu d'huile dans la porte.
Oui, derrière, oui. Alors, je n'ai pas manqué de le signaler à l'organisation du tournoi.
C'est important.
Avoir des portes qui ne grincent plus pour l'année prochaine. Très important. Et pour clôturer cette page Open de Rouen, un mot de tennis fauteuil. Car cette année marquait l'entrée au programme d'un tournoi officiel de tennis fauteuil inscrit au calendrier de la Fédération internationale. Cela signifie donc qu'il rapportait des points au classement, 100 en l'occurrence, des points convoités par la numéro 1 française, Pauline Desroulèdes, 18e mondiale. Elle était alignée à Rouen et a presque réussi le doublé. En double, justement, avec la Britannique Lucy Schuker, elles ont remporté le tournoi. Et clin d'œil de l'histoire, elles se sont affrontées en finale du simple. Mais c'est Lucy Schuker qui s'est imposée en 3 manches après un gros combat entre les deux joueuses. Et malgré la déception, Pauline Desroulèdes préférait retenir la belle semaine vécue et saluer la performance d'une adversaire qu'elle connaît très bien.
Ouais, très belle semaine ici à Rouen. Honnêtement, je suis ravie d'avoir pu jouer dans ces conditions. C'est une première pour nous d'être avec la WTA. On a été super bien accueillis. On a eu un public vraiment, vraiment chaleureux. Et c'est ça que j'ai envie de retenir. Je pense que c'est important pour notre sport. Bien sûr, j'aurais voulu gagner. Aujourd'hui, je n'étais pas dedans, honnêtement. Petite forme ce matin. Lucie, c'est une très bonne joueuse, très expérimentée. J'ai beaucoup de respect pour elle. On se connaît par cœur et aujourd'hui, elle a été plus maligne que moi. Donc je suis contente pour elle. Moi, j'essaierai de faire mieux l'année prochaine avec grand plaisir, voilà, pour m'améliorer encore plus.
Une belle finale pour conclure ce tournoi de tennis fauteuil qui a pris place donc aux côtés du tennis valide avec un succès indéniable. L'affluence en tribune pour la demi-finale de Pauline Desroulèdes était franchement plaisante à voir et un soutien qui n'a pas échappé à la principale intéressée qui souhaite que l'expérience se répète le plus possible.
Bah oui, c'est vrai que nous, les grands cours, le public, on le vit que dans les grands chelems jusqu'à présent. Donc voilà, pouvoir le vivre comme une répétition sur des tournois comme ça, en plus encore une fois à la maison, ça fait plaisir. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et je crois que les gens ont pu apprécier, en tout cas ceux à qui j'ai parlé étaient heureux d'assister à nos matchs. Donc voilà, encore une fois, j'espère que ça se reproduira, que la WTA aura apprécié aussi et qu'on aura l'occasion de rejouer devant autant de public l'année prochaine.
Revenir à Rouen l'année prochaine, tel est le souhait de Pauline Desroulèdes et notre souhait aussi, hein, finalement, pour une nouvelle édition de ce très beau tournoi en Normandie, quand même.
Ah oui, en Normandie, chez nous, sur nos terres. Voilà,
bah
c'est
oui,
plaisir, quoi.
Franchement,
on espère qu'il va durer le plus longtemps possible ce tournoi dans ces conditions-là, cette qualité-là. Voilà, donc le rendez-vous est pris pour l'année prochaine.
Pour l'année prochaine, pour l'édition 2027.
Enzo, tu avais d'autres petites infos à nous donner, des infos normandes.
Tout à fait, enfin, surtout une information, on va prendre des nouvelles d'un prodige normand, d'un prospect quand même, comme on dit si bien, Daniel Jade.
Ah oui, Dany.
Dany, qu'est-ce qu'il nous raconte,
le fameux Dany.
Mais bien sûr, Daniel Jade.
Bon, il est en pleine bourre là, Dany.
Il est en pleine bourre, absolument, Daniel Jade, qui vient de réaliser un triplé dans les tournois internationaux juniors sur terre battue. Tiens, terre battue, intéressant. Un triplé pour lui, là, il faisait une tournée dans le sud de la France. Et il a tout simplement raflé 3 tournois consécutifs là, en espace de 15 jours au Cap d'Aille, premièrement un J200, un autre J200 à Istres, pas très loin, et enfin un J300 à Beaulieu-sur-Mer, donc dans le sud, un tournoi au cours duquel il a battu un certain Mathis Domanck. Rappelez-vous de Mathis Domanck.
Ça nous parle,
on s'en rappelle.
Qu'on avait vu à l'Open de Caen. Voilà, il lui a mis 6-2, 6-2.
Aïe.
Tranquille.
Pas très
cool. Tranquille.
Tranquille au bilou, quoi.
Donc tout va bien pour Danielle Jeanne, finalement.
En tout cas, sa petite tournée dans le sud, là.
Elle a pris les accents idée, qu'on
elle
avait.
Elle est prolifique.
On peut le dire. Allez, l'OM.
35e mondial au classement junior, notre Danielle Jeanne. Au dernier classement ITF au 20 avril. Donc voilà, Danielle Jeanne va bien.
C'est pas un classement pif.
Hein. Et non, là.
On peut vraiment faire confiance à ce classement-là, je ne sais pas.
Bah, c'est ça. Et on n'a pas le pif ici.
Ouais, non. Surtout pas, quoi.
Mais voilà. Les nouvelles de Danielle Jeanne.
Eh ben, merci beaucoup, Enzo.
Avec plaisir.
Toutes ces belles petites informations. On se rapproche de la fin d'émission, mais on va quand même pas raccrocher cette émission sans un petit quiz made in Marine. Attention, t'es prête? Il y a un jingle exprès pour Marine.
C'est vrai?
T'es ready?
Je suis ready.
Allez, on y va. Qui aura la question?
Non, la réponse.
La réponse de...
La question.
Mais j'ai pas.
La question?
Non, mais c'est eux. Eux, ils ont la réponse. Enfin, non, ils ont la question et nous, on a la... Ça aurait été plus simple qu'on dise quiz.
Ouais, le quiz.
Quiz.
Alors, pour se mettre en jambes, est-ce que vous savez c'était quoi la finale la plus courte de l'histoire dans l'Air Open en Grand Chelem?
ATP, WTA ou juste... tout confondu?
Tout confondu.
Ouais, je crois que je l'ai.
En vrai, c'est connu.
C'est Greff-Zvereva.
Ouais. T'as le...
6-0.
Oui, ça c'était classique.
Roland Garros 89, je crois.
Ok. Alors, je voudrais pas dire...
88, si je peux me permettre.
Mais pour commencer cette émission, Marine est arrivée, elle a dit « Enzo, tu peux m'imprimer mon quiz ?» J'ai pas pu l'imprimer. Enzo, ah bah oui, je te l'imprime tout de suite. Évidemment, je ne regarderai pas du tout ce que tu me donnes sur ta clé USB et ce que
tu
peux te donner en papier.
On connaît, tu rages.
Il a passé 5 minutes à regarder l'écran d'ordi, je sais pas ce qu'il a fait.
Totalement partial. C'est pas beau.
Je jure à l'auditoire entier de Pleine Balle, qui donc se dénombre en millions de personnes, que je n'ai point jeté d'œil au contenu du quiz de Marine.
Est-ce que tu jures sur la tête de Simon?
Ah bah je jure sur la tête de Simon.
Est-ce que tu jures sur la tête d'Emile?
Bah bien sûr.
Emile est outré.
Emile est outré. En plus. Ok, alors on continue.
Gage de
confiance. C'est quelque chose qui est assez connu en 34 minutes, 6-0, 6-0. Ouais. 12 points marqués pour la Biélorusse.
Ah, quand même.
Et quand même, hein, 12 points sur toute une finale, c'est un peu gênant. Bon, petite pensée à ceux qui ont pris leur place. Fort heureusement, c'était à l'époque, donc c'était pas non plus les prix d'aujourd'hui.
C'était en francs.
Et hors grand chelem. Petite idée ou pas?
Ah, là par contre, je sais pas.
Une finale.
Donc c'est la plus courte, c'est ça?
Ouais, on reste dans le WTA, bien sûr. Parce que bon.
Ben non, franchement, j'ai aucune idée. Serena Williams, c'est dans l'histoire, peut-être, non?
Non.
Franchement, je sais pas.
Non, je sais pas non plus.
Aucune idée.
C'était en 1983, c'était Navratilova contre Jaeger en 27 minutes.
Ah, la Jaeger bombe.
6-0.
J'ai pensé
celle-là. Okay.
C'est le nom de Jaeger qu'elle a pu s'enfiler. Non, je regarde. 6-1-6-0 en 27 minutes en un tournoi à Stanford.
Okay.
Voilà.
Ok. Donc elle a quand même mis un jeu.
Elle a mis un jeu, mais 27 sur 27 minutes, quoi. Donc ça devait pas être très très disputé.
Un jeu blanc, je pense.
Ouais, sûrement. Si on reste dans les durées, le point le plus long jamais joué.
Waouh.
On est chez les hommes, chez les femmes?
On est chez les femmes.
Grand circuit.
Est-ce qu'on est sur...
On est
à l'Open de Caen amateur ou pas?
Non. On est chez les femmes en 1984.
Oh, wow. Mais je crois
donc
que j'ai vu.
L'air où ça jouait en cloche comme pas possible.
C'est des joueuses qu'on connaît ou pas du tout?
Non.
C'est pas le match qui avait duré aussi extrêmement longtemps aussi.
Ah bah je suppose que si le point dure ce temps-là, le match a dû durer.
Ça me parle, mais vaguement. Donc.
Alors c'est un point qui a duré 29 minutes.
Oh là là.
Oh là là.
643 coups.
Ouais, je crois que ça me parle ce truc.
Balle en cloche, on connaît. Hein.
600.
Entre Jean Heppner et Vicky Nelson Dunbar.
Oui. Ça me parle.
Voilà. Pas fou quoi.
29 minutes.
Alors, à souligner que du coup, Steffi Graf avait quasiment fini de dépecer Zvereva pendant la durée de ce point.
C'est ça.
Voilà, donc il y en a une qui gagne la finale, l'autre n'a pas fini son point. Donc.
15-0.
Chacun ses matchs, voilà. Exactement. Donc, oui, c'était un peu l'époque où ça jouait en cloche. Fort heureusement, c'est plus le cas aujourd'hui parce que sinon. La télé serait un peu longue. qu'est-ce qu'on a encore? Alors bon, des records de vitesse. On va pas partir sur les fusées de Isner ou Gross parce que ben ça c'est un peu stylé quand même.
Ouais.
Dans les services, le service le plus lent.
Jamais enregistré.
Ouais.
Sachant que ouais les radars ils prennent pas quand même.
Oui.
Ouais, à
c'est ça.
Certains...
Oh. C'est pour ça. Alors j'ai demandé à Google. Google ne savait pas trop. Donc quand Google ne sait pas, il demande à Chuck Norris. Et Chuck Norris, malheureusement.
Tu l'as placé ta
R.I.P. J'ai enfin placé ma référence. Mais non, au moins une idée peut-être de la joueuse.
Sarah Errani.
Ouais. Sarah Errani qui n'hésite pas du coup à servir en dessous des 100 km/h même.
Ah.
Elle a déjà servi à 80 km/h, j'ai déjà dû voir ça.
Ok.
Intéressant.
Pas fou.
Bah, c'est,
mais
c'est
ça
un
dit
record.
Ça marche, hein,
c'est un record.
Dit, et ça marche. Voilà.
On en parle. C'est quand même une top joueuse. Hein.
C'est une top joueuse, Sarah Errani. Voilà, on va pas cracher dessus. Ça surprend. Ça surprend et ça marche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour vous? La plus longue série de défaites consécutives.
Ah,
homme ou femme alors?
Nous sommes sur un sur
nous
un
sommes sur un
sur un.
Nous sommes sur un homme.
Un homme, ok.
Récent
un
ou
homme,
pas?
Un homme. Ouais, est-ce que c'est récent? C'est une bonne question.
Ça dépend. Si je... Alors non, mais c'est à dire que si je dis oui, ça va faire plaisir à Richard.
Oui.
Si je dis non.
D'accord. Donc on va dire oui alors. Disons oui.
On est dans les années 2000. Entre 99 et 2000.
Entre 99 et 2000,
ouais.
Un joueur qui a empilé les défaites.
Un joueur connu?
Franchement, non, je pense que si je vous donne le nom, ça va pas.
Quelle nationalité?
USA.
USA?
Ouais.
Ah, c'était pas genre un Spadea ou un.
Exactement.
Oh là
Spadea,
là là là,
USA. Oui. Okay, est-ce que ouais, tu as le Spadea. Nombre de défaites consécutives?
Vince Spadea, non, mais bon, il a dû en faire aller une trentaine.
Ouais, peut-être pas quand même. 21.
Bah,
21 défaites consécutives.
Ah, c'est pas mal.
C'est pas mal.
C'est
Venus
pas mal.
Williams s'en rapproche.
Oui, doucement mais sûrement.
Attention.
Ouais, mais Venus est en fin de carrière.
Oui, c'est vrai.
Oh, c'est vrai. On sait pas.
Ah, c'est vrai, peut-être.
Pas.
Peut-être que c'est son regain.
C'est que le début.
Pas,
que le début.
Hein.
Que le début.
Une jeune joueuse, finalement. Dans les défaites, il y avait une petite stat aussi qui m'a fait rire. Les pires face-à-face de l'histoire.
Ah oui,
ah
oui
en
oui,
carrière. Voilà. Bon, là, j'ai plusieurs. J'ai un petit florilège.
Ah,
mais
il y a du français là-dedans.
Il y a du français là-dedans.
Il y a beaucoup de français.
Ah oui, il y a du français, oui.
Bon, évidemment, il y a des Nadal, des Williams, des Federer qui se jouent dedans. Mais est-ce que vous avez une idée un peu des français concernés?
Bah oui, je pense qu'on en a un qui est contre Nadal.
Oui.
Gasquet.
Oui,
c'est Gasquet Nadal,
Gasquet
déjà.
Nadal 18-0.
Aïe.
Ouais, ouais.
Aïe.
Mon fils Djoko aussi, je crois.
Mon
qu'il
fils
y a 20-0, un truc comme ça.
19-0.
Ouais,
et il n'aura pas réussi.
19-0.
19-0, ça fait dur. Il y a un Federer-Ferrer aussi, 17-0.
Mmh.
Ah,
aïe.
Pas mal. C'est ce qu'on appelle des bêtes noires, ça.
Ouais,
ah, bah là,
ça,
ouais. Et il y a un Williams Sharapova, 20 victoires contre 2.
Ah ouais,
ah ouais,
ouais. Ah bah j'aurais pas pensé.
Et ça c'est étonnant parce
ouais,
que
Sharapova.
Bah, Sharapova quand même, ça,
quand même deux, Sharapova,
c'était
ouais.
Un peu deux têtes. Et non en fait contre Williams, que dalle.
Je n'ai pas les deux Williams réunis, hein, c'est une seule.
Ah c'est Serena. C'est...
la famille Williams.
Je n'ai pas mis Ostapenko Swiatek parce que voilà, j'ai pas envie de le dire. Mais je crois
quoi,
qu'elle
7-8-0.
6-0 6-0 pour l'instant.
Ouais,
mais
bon.
Voilà ça sera fini.
Ça va encore.
Ça va, c'est.
Ça va.
Petite joueuse. Les doubles fautes. On aime bien les doubles fautes, surtout
ouais.
Les Ajakmo, visiblement. Le record du monde, du nombre, pas le record du monde, ouais, du nombre de doubles fautes en un match.
C'est pas Benoît Paire.
C'est pas Benoît Paire.
Le plus grand
c'est
nombre.
C'est une joueuse de tennis.
De tennis.
Une joueuse récemment.
99.
99. Qu'on connaît.
Oui.
On la connaît.
Oui.
Et elle a fait beaucoup de doubles fautes.
Qui pourrait faire beaucoup de doubles fautes en 99
Qui c'est qui n'avait pas servi hein.
Elle a gagné en 3-7.
Elle a quand même gagné.
1-6-6-4-10-8. Donc il y avait de quoi faire des doubles fautes.
Quelle nationalité?
Davenport?
Non.
Américaine?
Serbe, je crois.
Serbe.
Serbe ou croate, enfin, pays de l'Est.
Ouais, c'est vaste.
Iva Maioli?
Non. Une mannequin, si je me trompe pas.
Oh, Kournikova.
Ouais.
Ah,
fallait que je commence par là, pardon.
Bah, bah oui.
Ça montre pourquoi elle est restée dans la postérité. Ah non, mais c'est vrai.
Anna Kournikova, 31 doubles fautes dans un match.
Et quand même,
ouais. On est globalement sur 8 jeux donnés à son adversaire, gratuitement. C'est gentil en vrai.
Sympa.
Pas mal,
c'est gentil.
C'est un bon chiffre.
Franchement, très très courtoise, madame. Et en restant dans les doubles fautes, le nombre de doubles fautes cumulées sur toute une année.
Ah, ah le record, par...
ouais.
C'est pas récent si.
Non.
Ouais, d'accord.
Bah maintenant, c'est des stats qui existent plus trop parce que les.
C'est quoi qu'on appellerait pas
réglés.
Récent Vas-y, dis l'année.
92.
Ah, wow, 92.
Pas très récent.
92, 92.
Gros serveur du coup.
Un joueur ou une joueuse.
Un joueur.
Un joueur.
Que personnellement, je ne connais pas, mais.
92.
Français.
Suisse.
Ah, Marc Rosset.
Oui.
Ouais, ah, j'ai dit Rosset, ouais.
Bah oui, un peu.
Est-ce que vous avez une idée? Du nom. Alors, sachant que dans la moyenne, un joueur classique, c'est on va dire 150 doubles fautes, quoi.
Dans l'année ?
Ouais.
Il en a fait 315.
C'est plus.
Ouais, on est pas loin des 1000, non ?
Ouais.
Allez, moi je dis 700.
Bah, non. C'était une blague. Emile est juste là, oui. Bref. Non, 400 ?
440 doubles fautes.
Ok.
Ça fait beaucoup.
C'est quand même pas mal.
C'est quand même pas mal.
Il aimait prendre des risques.
Il était fougueux, Marc Rosset.
Complètement, ouais. Complètement.
C'est un petit foufou. Et il y a un Ivan Isevich aussi qui était pas mal. 350 doubles fautes.
Oui, c'est vrai.
Ça se défend.
Ça se comprend.
Ça va. Dernière petite question. Ah, c'est facile, je vous l'accorde. À votre avis, combien de raquettes ont été cassées par Marat Safin en une saison ?
La saison où il a pété le plus de raquettes,
ouais.
C'est ça
que t'as... Oh. C'est dans sa jeunesse, début de carrière.
Ouais, en vrai, je sais pas.
Je sais pas non plus.
En vrai, quand on le voit comme ça, c'est 48 raquettes.
Ouais, j'allais dire 40.
C'est ça, mais là comme ça, c'est pas très très choquant. Sachant qu'après recherche poussée et argumentée et tout ce que vous voulez...
Ouais, ouais.
En 99, donc c'était donc début de carrière finalement, il aurait joué à peu près une trentaine de matchs.
Ah, ça fait un ratio plus.
Donc là, voilà, là les 48 raquettes, ça fait un petit peu mal.
Ah, ça commence.
Ouais.
Ouais, voilà, sachant que c'est... attends, qu'est-ce que j'ai vu comme stat ? Sur toute sa carrière, il en aurait cassé 1055.
Ah oui. Donc
là,
ah ouais.
Là, ça commence à taper un petit peu plus, sachant qu'une raquette, ça coûte un peu cher.
On commence à faire le calcul, ouais.
Oui, ouais.
Il va falloir gagner des tournois pour que ça soit rentable, quoi.
Marat Safin, quoi.
Marat
Safin, écoute, hein, on le porte dans notre cœur quand même.
C'est ça.
Le petit Marat. Eh ben dis donc.
Le grand Marat.
Eh ben
voilà.
c'était sympa,
un petit florilège,
petit...
des petits
voilà.
records. Bah,
merci bien.
Ouais, un petit
cool.
quiz de choses dont on n'entend pas assez parler, tu vois, les chiffres comme ça. Dont on ne parle pas assez.
Les raquettes pétées.
Les raquettes pétées.
Les raquettes pétées, c'est intéressant.
C'est intéressant.
Ça. Même ben pas Benoît Paire, quoi. Comme quoi, il a de la marge en plus.
C'est vrai. Quand même une demi-heure, le point le plus long du monde. Là.
C'est
c'était de la folie, ça.
Ça, c'est des records qui peuvent plus. Ça peut plus arriver aujourd'hui. Même les doubles fautes, les raquettes, tout ça.
C'est pas compliqué.
Ils sont tellement cadrés aujourd'hui qu'on est obligé d'aller taper.
Mais bon, après, faut jamais dire jamais. Hein.
C'est vrai.
Attention.
Oui, il y a Titi Pascal.
Merci beaucoup, Marine.
Mais avec plaisir.
Merci. Merci, Enzo. Toujours.
Merci à Echi.
Merci à Emile.
Merci, Emile.
Belle émission. Nous, on va se retrouver dans 15 jours.
Bah évidemment.
Bah oui,
évidemment,
toujours.
15 jours pour parler du Masters 1000 de Rome. On sera dedans à peu près. Voilà.
Ouais, c'est ça.
On continue les préparatifs autour de Roland Garros, ça c'est sûr. Très bonne soirée à tous. Bon week-end.
Bonne soirée.
À bientôt. Ciao.
Et vive le tennis.